Pas béni. Nous allons continuer la série de prédications qu'on a engagées ici. Nous allons lire tout de suite dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, déjà à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen.
Amen.
Nous lisons dans le chapitre 4, dans le verset 40 à côté, le même chapitre, le verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait et ne leur permet pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Nous lisons Jean, le chapitre 3, le verset 16. C'est un verset que nous connaissons tous. C'est l'un des versets les plus célèbres de la Bible. Commencer au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, nous remettons encore entre tes mains cette méditation. Conduis-nous par le Saint-Esprit que tu nous as donné et guéris nos cœurs, guéris nos âmes, guéris nos esprits ce soir. Fais-nous du bien, Père Céleste, parce que nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous voulons arriver dans les entrailles de ta puissance. Nous voulons expérimenter une pleine guérison, une pleine délivrance en toi, Père. Nous voulons aspirer à ta communion, comme tu l'as voulu au commencement, Père Céleste. Ne voulons pas se nous contenter d'un à peu près, d'une religion, mais nous voulons vraiment regarder à toi, Jésus. Nous voulons te posséder, toi le Christ, de manière entière et totale, au nom de Jésus-Christ. Et nous ne voulons plus être dérangés, Père, dans notre communion avec toi, par les yeux de l'adversaire. Mais nous voulons être totalement et totalement affranchis, libérés, Père Céleste, pour avoir une pleine communion avec toi. Alors, bénis notre communion avec toi, Seigneur. Prends en main ta parole, notre Dieu, et prêche-nous encore ce soir, parce que nous voulons t'écouter et nous voulons te délivrer, nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ, ton saint serviteur, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais aborder un sujet intitulé « L'onction de la délivrance ». Amen. La Bible dit, et c'est Jésus qui l'a dit, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les hommes avaient un problème avec Dieu. Depuis le jardin d'Éden, ils avaient commis le péché, la désobéissance. Vous savez que l'histoire de la Bible est basée sur le fait qu'il y a eu une désobéissance de la part d'Adam et Ève. Ils avaient transgressé la parole de Dieu et le Seigneur les a châtiés. Ils ont connu la mort. Et tous ceux qui sont issus de ces deux-là, tous les hommes, toute la génération qui est venue après, tout le monde entier, est entré dans la mort. Les hommes naissaient pour mourir. Ils ne pouvaient pas vivre. Mais Dieu avait fait une promesse déjà, à la suite de la chute, une promesse de guérison et de délivrance. Et cette promesse a été manifestée en Jésus. Donc, en Jésus-Christ, les hommes pouvaient obtenir la guérison, la délivrance et la vie. Disons la vie, puisque en Adam, tous mouraient, comme c'est écrit comme ça. Et Jésus est venu avec la guérison. Quand on lit dans les prophéties qui parlent du Seigneur, il est dit que quand il serait sur la terre, les boiteux marcheraient, les aveugles verraient, les sourds entendraient, les malades seraient guéris. C'est comme ça que le Messie a été annoncé. Et quand Jésus est venu, cela a été manifesté dans sa vie comme ça a été prédit. Et ici, dans Luc chapitre 4, il a voulu déjà annoncer, après qu'il soit venu du désert, parce qu'il allait jeûner 40 jours dans le désert, quand il a fini là-bas, il est venu dans la synagogue et il est venu annoncer sa mission qu'il allait accomplir sur la terre, sa mission de délivrance. C'est pour ça qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'était au commencement de ton ministère. Il allait entrer dans son ministère. Parce que le ministère de Christ est un ministère de guérison, un ministère de délivrance et de libération. C'est un ministère qui est venu pour mettre fin au règne de Satan dans l'Église et dans la vie des hommes et des femmes. Jésus est venu, mes frères et sœurs bien-aimés, afin que tout homme qui croit en lui soit délivré de tous les liens de péché, les liens de maladie, les liens de la mort. Jésus est venu pour mettre fin à cela dans la vie de quiconque croit. Il est venu abolir la mort. Il est venu détruire les œufs de la maladie. Il est venu chasser les démons de la vie des hommes et des femmes, de la vie des croyants et des croyantes. Il est venu afin que ceux qui croient en lui puissent expérimenter une pleine vie, une pleine guérison. Pas à moitié, frère. Pas à moitié. Mais une pleine guérison, une pleine délivrance, une pleine libération. C'est pour cela qu'il est venu. Et ces choses-là, en tant que chrétien, on doit les savoir. On doit les comprendre. Et on doit y aspirer. Parce que Jésus, il est venu dans le monde comme un espoir, comme une lumière, pour que les yeux des aveugles s'ouvrent, pour que les malades soient guéris, les malades soient délivrés, soient libérés de l'oppression des démons. Parce qu'avant le Christ, le diable avait un pouvoir total sur les hommes. Il pouvait leur donner la maladie, les asservir, régner sur eux. Mais quand le Seigneur est venu, il est venu chasser le diable. C'est pour ça que dans l'évangile, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, des gens, on voit des gens possédés qui viennent au Christ et qui obtiennent la délivrance. On voit des malades qui viennent, qui sont guéris. On voit des gens qui ont souffert pendant 18 ans, pendant 38 ans de maladie et qui, en croisant le Christ, ont eu la guérison, la délivrance. Donc, il est venu comme de l'espoir pour les hommes qui souffrent parce que le Seigneur, il a tellement aimé le monde, c'est ce qu'on a lu. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu a été manifesté en Christ pour que les gens ne souffrent plus. Frère, c'est pour cela que nous sommes malheureux si on vient à l'église et que si à l'église on continue de souffrir. On ne peut pas concevoir que des croyants, des chrétiens viennent à l'église et qu'ils soient encore assujettis à l'oppression des démons. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal que des croyants, des chrétiens soient assujettis à l'oppression des démons. En ce moment, pourquoi le Christ est venu? Mais il est venu pour qu'on soit délivré. Oui, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus n'est pas venu comme ça dans le monde au hasard. Il est venu avec une onction. Il est venu avec une puissance. Et l'onction avec laquelle il est venu est une onction de délivrance. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous renvoyez libre les opprimés. Ceux qui sont opprimés par le diable dans le monde, quand ils viennent à l'église en Christ, ils doivent trouver la guérison. L'oppression pour eux doit cesser. Ça doit cesser, frère. Celui qui a cru en Jésus, pour lui doit prendre fin l'oppression démoniaque et satanique. Pour lui doit prendre fin les souffrances spirituelles. Pour lui doit prendre fin tout ce qui est de l'adversaire, qui l'opprime, qui l'empêche d'adorer Dieu comme il se doit. Ça doit prendre fin. Sinon, on n'a pas encore croisé Jésus. On a un problème. Mais le Seigneur est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir les malades, pour chasser les démons. Et les hommes étaient possédés. Plusieurs étaient possédés. Ils étaient liés. Vous savez, il y a eu un qui avait légion dans sa vie. Il était envahi parce que les démons cherchaient lui des temples, des lieux où habiter. Donc, ce sont les hommes qui sont leurs lieux d'habitation. Il y avait un qui avait des milliers de démons. Quand il a parlé de Jésus, ils sont allés dans les ports là-bas. Il y avait une femme qui était courbée. Pendant 18 ans, elle était opprimée par le diable. Et Jésus l'a connu dans la synagogue. Il lui a dit, ma soeur, aujourd'hui, tu as guéri de ton mal. Elle s'est redressée. Elle était heureuse. Et celui qui dirigeait la synagogue, il se plaignait. Pourquoi il attend le jour du sabbat pour faire une guérison? Regardez les méchants. C'est les méchants. Il a dit, mais même quand il y a le sabbat, vous détachez vos âmes pour aller manger. Et pourquoi pas cette fille d'Abraham qui souffre depuis? Il faut bien qu'elle soit délivrée. C'est pour ça que je suis venu. Jésus est venu pour les malades, frères et sœurs. Jésus est venu pour les malades, pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. C'est pour eux qu'il est venu. Et il a laissé en partant, il a laissé à l'église, l'onction de la délivrance. Et cette onction est encore dans l'église. Elle est là, frère. L'onction de la délivrance et de la guérison, c'est dans l'église, parmi les croyants, afin que ceux qui viennent à Christ soient délivrés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient libérés dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Ceux qui sont dans l'esprit des ténèbres, que les ténèbres soient chassées et que la lumière vienne dans l'esprit, afin qu'ils adorent Dieu comme il se doit. Ceux qui sont malades, il faut qu'ils soient délivrés de la maladie. Parce que Jésus a vaincu la maladie. Il a écrit que par ses maîtrises, nous avons été guéris. Là où on l'a brimé, là où on lui a fait des maîtrises dans le corps, c'est exprimer la guérison. Mais tout ça des maladies, frère. Et le réveil va nous amener à la délivrance et à la libération de l'esprit surtout. Il faut que notre esprit soit délivré de la captivité, de la tiédeur, du sommeil et de l'assoupissement. Il faut, frère, que notre vie entière soit extraite de l'emprise des démons, de l'emprise du monde, de la mondanité, de la religion. Parce que la religion a des influences dans notre vie. La tiédeur influence notre vie et notre esprit. Il faut que nous soyons totalement libérés, délivrés, affranchis, frères et sœurs. Et quand la plupart des malades, les aveugles, les boiteux, c'est spirituel aussi, frère. Quand on parle d'un aveugle, c'est pas seulement physique. Quand on parle des boiteux, c'est pas seulement physique. Il y a des gens qui sont aveugles dans l'église. Ça veut dire qu'ils ne voient rien. Ils veulent s'asseoir dans l'adoration, mais ils ne voient rien de ce qui se passe. Ils sont spirituellement aveugles, ils ne voient pas clair. Ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Ils ne voient rien. Ils n'ont pas de vision. Ils ne voient rien, ils comprennent rien. Il y a des sourds dans l'église, frère. Il y a les sourds spirituels. Les sourds, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu et qui ne la pratiquent pas. Ceux-là, c'est des sourds. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais rien entendu. Ils sont sourds. Leurs oreilles sont bouchées. Ils sont sourds. Ils n'entendent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Ils ne voient rien du tout. Il y en a qui sont muets. Ils sont muets. Parce que leur langue est liée par l'adversaire. Ils ne peuvent pas prier, ils ne savent pas prier. Leur langue est liée par l'adversaire. Ils sont muets. Physiquement, ils parlent. Mais spirituellement, ils sont muets. Ils ne parlent pas. Ils ne savent pas prier. Quand on dit prions, ils ne peuvent pas prier. Leur langue est liée par l'adversaire. Ils sont muets. Ils ne peuvent pas parler de Dieu. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche pour exprimer les bienfaits de Dieu. Pour parler de Dieu. C'est des liens, frère. Et là, ils sont boiteux. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas. Il y a des paradis spirituels, ils ne peuvent pas marcher. En esprit, ils ne marchent pas, ils sont arrêtés. Physiquement, ils marchent, mais en esprit, ils ne marchent pas, ils sont arrêtés. C'est des malades. Ils ne marchent pas. Ils tournent en rond. Leur vie chrétienne tourne en rond, ils ne marchent pas, ils ne vont pas de l'avant. C'est des gens qui sont spirituellement paralysés. Soit par une doctrine, soit par un faux enseignement, soit par un péché. Il y a des lépreux aussi. Physiquement, ils ont la peau qui va bien, mais spirituellement, ils sont des lépreux. La lèpre, c'est des péchés, des problèmes dans notre vie qui sont là, qui nous affectent, qui ne bougent pas, des péchés non confessés. Il y en a qui ont des péchés non confessés, il y en a qui ont toutes sortes de problèmes spirituels. C'est des lèpres. Vous savez que le péché, c'est comme une plaie dans notre vie. Les péchés qu'on commet régulièrement, c'est des plaies dans notre vie. Quand on vit dans un péché, ça devient une plaie dans notre vie. Une lèpre. Il y a des lépreux spirituels. Ils ont besoin d'être purifiés par le Seigneur. Frères et sœurs, les maladies existent dans le monde physique comme dans le monde des esprits. Les maladies existent. Mais en même temps, Jésus a envoyé une onction dans l'église pour la délivrance de tous ceux qui sont malades, physiquement et spirituellement. Jésus est venu pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient libérés. Jésus est venu pour que ceux-là ne souffrent plus. Que leur souffrance s'arrête. S'arrête. Jésus est venu pour ça. Donc, la vie de Christ, scène de délivrance, de libération. Quand il a fait cette proclamation-là, quand il a dit ça, il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et quand il a quitté cette synagogue, il a commencé à prêcher. Et les âmes malades ont commencé à venir, ils étaient délivrés. Ici, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il lui imposa les mains et chacun d'eux a reçu la guérison. Les démons ont été chassés aussi. Parce que frère, nous les chrétiens, à notre présence, les démons ne doivent pas subsister. Nous avons été faits pour vivre en séparation avec les démons. La vie des démons, c'est la vie de péché. C'est la vie de souillure. C'est la vie d'impureté. C'est la vie de débauche. La vie de mondanité, c'est ce qui est la vie des démons. Et nous les chrétiens, nous sommes de la lumière. Nous avons une vie différente. Notre vie, c'est la vie de Christ. Donc, on ne peut pas subsister, vivre, cohabiter avec des démons. Jésus est venu pour nous séparer. Alléluia. Avant, on n'était pas séparés. Mais la croix nous a séparés des démons. La croix nous a séparés de la vie des démons, c'est-à-dire la vie de péché. Donc, on ne peut pas cohabiter, subsister avec les démons. Ce n'est pas possible. Nous avons une vie séparée. Et ils sont des ténèbres, nous sommes de la lumière. Et Jésus est venu pour mettre fin au règne des démons dans la vie des croyants, dans la vie de l'Église. C'est pour cela que si nous avons cru, nous devons expérimenter une pleine guérison, une pleine délivrance. Surtout dans l'esprit, frère. Dans l'esprit. Souvent, on ne sait pas, quand on parle de guérison dans l'esprit, comme les choses sont spirituelles, on ne comprend pas bien. Mais notre esprit doit être délivré, guéri. Notre esprit doit être libéré, frère. L'esprit de l'homme doit être libéré de l'emprise de l'adversaire. Un esprit libéré, c'est un esprit qui ne peut pas être soumis au chantage du diable. Un esprit libéré, c'est un esprit qui ne peut pas être influencé par la vie de l'adversaire, par la vie de péché. Vous le mettez là, dans les entrailles du péché, il sort intact. Ça, c'est un esprit libéré. Mais les chrétiens, dès qu'ils sont isolés, ils deviennent, ils se confondent aux païens. Ils deviennent comme des païens, dès qu'ils sont isolés. Ils font deux, trois, un mois, ils ne vont pas à la réunion, c'est fini, ils sont isolés. Ils deviennent des païens. Quand ils sont avec les païens, ils vivent comme les païens. Quand ils sont avec les chrétiens, ils se comportent comme des chrétiens. Vous n'êtes pas libérés. Vous n'êtes pas libre. Un chrétien partout, sa chrétienté est affichée. Oui. La chrétienté est affichée. Et un esprit libre, c'est un esprit qui fait ce que Dieu veut qu'il fasse. Un esprit qui a la force et le courage de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Ça, c'est un esprit libre. Parce qu'un esprit opprimé, il n'a pas la force. Il n'a pas la vigueur pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais un esprit libre, il se lève vaillamment. Parce qu'un esprit libre, c'est un esprit vaillant. Vous connaissez dans la Bible les vaillants héros de David. Ça, c'est le symbole des esprits libres. C'est des gens d'espoir. David a dit, il veut boire de l'eau. De l'eau se trouvait dans un endroit dangereux. Dès qu'il a dit ça, ils sont levés, ils sont partis. Ils ont bravé tous les obstacles, ils sont allés prendre de l'eau, ils ont ramené ça à David. Il a dit, mais je ne boirai pas, c'est votre sang. Ça, ce sont des esprits vaillants, qui peuvent faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Il peut accomplir la volonté de Dieu, il peut soumettre l'adversaire à la volonté de Dieu. Mais pas que lui soit soumis à la volonté de l'adversaire. Donc, il faut que nos esprits soient bien libérés pour mener le combat spirituel. Parce que c'est l'esprit qui combat le combat spirituel. L'âme ne peut pas le faire, je l'ai déjà dit ici. L'âme est fragile. L'âme obéit aux ordres, soit de la chair, soit de l'esprit. Mais l'esprit, quand il est bien libéré, il est vigoureux. Il est vigoureux. Il est vaillant. Il est vaillant, frère. Il est vaillant. Il n'est pas paresseux, il est vaillant. Il a de la force et du courage pour mener le combat spirituel. Pour assujettir tout l'environnement à la volonté de Dieu. Et l'esprit libéré, c'est un esprit qui peut soumettre son âme à la volonté de Dieu. Soumettre la chair à la volonté de Dieu. C'est ça un esprit libéré. Sinon, autrement, c'est un esprit malade. C'est une âme malade. Et il y a plusieurs qui sont malades dans la besoin de Dieu. Soit ils sont aveugles, ou bien ils sont paralysés, ou bien ils sont boiteux, c'est-à-dire ils marchent avec un pied, ou bien ils voient avec un œil, ou bien ils sont bossus. Oui, il y a beaucoup de choses. Ou bien les lépreux, il a des plaies sur le corps. C'est-à-dire des péchés dans lesquels il vit régulièrement. Il n'arrive pas à s'en sortir, c'est délié. Parce que derrière les péchés, il y a des démons. Quand un péché te domine, frère, ça veut dire que tu es lié, tu as un problème. Oui. Quand un péché domine sur toi, ça veut dire que tu as un problème, tu es malade. Sinon, logiquement, tu dois dominer sur le péché. Dieu a dit ça à... Comment il s'appelle, le frère de Acaïe, ouais. Le péché se couche à ta porte, mais domine sur lui. Ça, en ce moment, il n'y avait pas Christ encore. Maintenant qu'il y a le Christ, on doit davantage dominer sur le péché, frère. Oui. Que Dieu soit béni. Donc, le Seigneur est venu avec dans l'Église une onction de délivrance et de libération. Une onction pour nous affranchir des œufs du diable, des œufs des ténèbres. Jésus est venu pour que nous soyons séparés des ténèbres, séparés des démons, de l'oppression des démons. Il est venu pour nous libérer dans l'esprit et dans l'âme, pour nous guérir. C'est pour ça qu'on ne doit pas accepter d'être malade dans la main de Dieu. On ne doit pas accepter de souffrir, d'être sous l'oppression de l'adversaire. On ne doit pas accepter d'avoir une vie chrétienne médiocre, une vie chrétienne misérable, pauvre. On ne doit pas accepter qu'on n'arrive pas à prier. On ne doit pas accepter ça, frère, parce que ce n'est pas notre vie. Ce n'est pas notre vie, ça. Notre vie est une vie de plénitude. On doit avoir une vie de plénitude en Christ. Pas une vie de disette. Pas une vie misérable. Pas une vie de pauvreté. Mais notre vie doit être une vie de plénitude. Une vie de pleine communion avec Dieu. Une vie qu'on peut communiquer autour de nous. Mais qui peut donner ce qu'il n'a pas? Qui peut donner au prochain ce qu'il n'a pas lui-même? Et nous sommes appelés, en tant qu'épouse de Christ, si on y fait partie, à manifester son amour envers le monde. Nous sommes appelés à témoigner ce qu'il veut de vous lire là. Ce que Jésus a dit. C'est aussi pour l'épouse. Demain, frère, parce que le Christ, il arrête mon esprit. Demain, c'est l'épouse qui doit chasser les démons, des corps, qui doit guérir les malades, qui doit ramener à la vie les morts, n'est-ce pas? C'est l'épouse qui doit le faire. Mais si toi, tu es dans l'épouse, si tu es appelé à faire ça, il faut que toi-même d'abord, tu sois guéri, délivré. Ah oui? Ah oui? Il faut que toi-même, tu sois délivré, guéri, pour pouvoir communiquer la guérison aux autres. Et moi, le Seigneur m'a révélé la guérison. J'ai fait une brochure là-dessus. Il y a des chrétiens qui souffrent, ils sont malades. Et leur vie se trouve entre les mains des médecins. C'est-à-dire que si le médecin ne fait pas bien, ben, il va mourir. Vous comprenez? Mais entre nous et les médecins, qui doit donner la guérison au prochain? C'est qui? Hein? Dans le fort, je vais entendre. Entre un chrétien et un médecin, qui doit communiquer la guérison à son prochain?
Le chrétien.
C'est le chrétien. Jésus a dit, à mon nom, vous allez poser les mains aux malades, ils seront guéris. C'est Jésus qui a dit ça. Et devant le Seigneur, aucune maladie ne peut résister. Pour les médecins, il y a des limites. Mais pour les chrétiens, il n'y a pas de limites. C'est nous qui avons la puissance et le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Ce n'est pas les médecins. Mais, et donc, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, nous, nous qui sommes assis ici, pour celui qui a le Christ, il a déjà en lui la guérison. Vous comprenez? Recevoir à Christ, recevoir la guérison en fait. Donc, déjà en lui se trouve la guérison, se trouve la force, la puissance qui peut guérir le prochain. Déjà. Donc logiquement, un chrétien, il n'est pas malade. C'est la conclusion, hein. Donc logiquement, un chrétien n'est pas malade.
Je m'excuse, mon frère.
Après, s'il vous plaît. Après la question.
Non, okay. Je ne suis pas de cette église.
Oui.
Ni cette assemblée, mais j'ai habité pendant chaque Paris. Et puis, j'ai pas vous commentiez.
J'arrive, frère, s'il vous plaît. Après. Après, on va parler de cela, ok? Quand on est à la chambre, on ne peut pas satisfaire une personne. En fait. S'il vous plaît, ça va, ça va.
On n'arrive pas à entendre parce que des choses qui ne sont pas toutes la question.
Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer après. À vous seul, je vais vous expliquer après, ok? Je vais vous expliquer. Amen. Alors, un chrétien, il a sur lui l'onction. Il a en lui le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, selon Marc 16. C'est le Seigneur qui a dit ça. C'est un pouvoir qui nous a été donné. Donc, logiquement, ce sont les chrétiens qui doivent communiquer au monde la guérison. Un chrétien ne doit pas être soumis, assujetti à la merci de ce monde. Logiquement. Nous avons une merci surnaturelle, frère, qui guérit par la puissance de Dieu. Et j'ai examiné la maladie, son origine. J'ai vu que ça provient des malédictions. Lisez Deutéronome 28. La maladie vient des malédictions. Et des promesses de guérison. Pour tout le peuple de Dieu, frère. Tout le peuple de Dieu. Quand tout va bien avec le Seigneur, c'est la guérison. C'est la libération, c'est la délivrance. Mais la corruption du monde fait que souvent, le corps tombe malade. Mais la volonté intrinsèque de Dieu, c'est que les croyants vivent dans la plénitude de la vie de Christ. Et qu'ils communiquent au monde la guérison, la délivrance. Physique et spirituelle. Physique et spirituelle. Et nos âmes sont appelées à expérimenter à chaque fois le renouvellement, l'âme du croyant, le renouvellement, la guérison, frère. Donc, on doit aspirer à la guérison divine, au plan spirituel, et aussi au plan physique. Si vous êtes malade, que la médecine ne peut pas vous aider, mais tournez-vous vers le Seigneur. C'est lui C'est lui qui donne la guérison, la délivrance. C'est lui, frère. Le Seigneur est venu dans l'église avec une puissance. Et cette puissance est dans l'église. C'est une onction qui est sur le Christ, qui est aussi venu sur nous. Ça est dans l'église. Et celui qui arrive à saisir cette onction, il obtient la guérison. Cette onction, on la saisit par la foi. La Bible dit, venez aux eaux. Venez. Venez aux eaux. Vous qui êtes malades, vous qui avez des problèmes, venez aux eaux. Venez saisir cette onction. Quand Jésus était là, Dieu qui expérimentait la guérison, ils avaient la foi pour saisir cette onction-là. Ils l'ont saisi. Il y a une femme qui perdait du sang, vous connaissez l'histoire. Elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Quand elle a touché, elle a été guérie. Elle a été délivrée d'un mal dont elle souffrait depuis 38 ans. La Bible dit qu'elle allait chez tous les médecins, ils n'ont pas été en mesure de la guérir. Mais quand elle a touché le Seigneur, elle a été guérie. Mais c'est par la foi. Parce que plusieurs bousculaient Jésus. Plusieurs le bousculaient quand il passait avec cette femme. Elle était derrière. Elle a seulement touché son vêtement. Il a dit, qui m'a touché? Elle a posé la question, elle a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce qu'il a senti qu'il a été touché. Et la Bible dit qu'il y a une vertu l'a quitté pour guérir cette dame. C'est l'onction de la délivrance, c'est la guérison, frère. Il avait ça sur lui. Et il a senti que la puissance l'a quitté pour soulager la dame. Mais elle a pris ça par la foi. Il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. D'abord, ta foi t'a guéri, et après, ta foi t'a sauvée. Et il y a plusieurs comme ça qui ont expérimenté la guérison en saisissant le Seigneur par la foi. Sinon, on peut le bousculer tout simplement. On peut le bousculer sans qu'il soit perturbé. Si on le bouscule 100 fois, il ne sera pas perturbé, le Seigneur. Celui qui vient au Seigneur 100 fois, il ne le touche pas. Il ne peut pas l'expérimenter. Parce que l'incrédulité barre le chemin. Ça barre le chemin de l'incrédulité. Mais celui qui a la foi, il expérimente le Seigneur. Celui qui croit qu'effectivement le Seigneur est venu pour la guérison et que cette guérison est dans l'église, il expérimente la délivrance. Donc, si nous venons au Seigneur, frère, on doit toujours aspirer à une pleine libération. Souvent, on se contente d'un à peu près et puis on n'avance pas. Il faut que nous puissions avancer. Avec Jésus, il n'y a pas d'à peu près. Il faut la plénitude. Et notre vie doit être une vie de plénitude. Une vie de délivrance et de libération totale des liens de l'adversaire, des liens de péché. Parce que vous ne pouvez pas combattre un ennemi si vous avez avec lui ses affaires. Ce n'est pas possible. L'épouse ne peut pas combattre son adversaire si elle a avec lui ses affaires. On se comprend, frère? C'est pas possible. Si vous avez quelque chose de Satan, vous ne pouvez pas le combattre. Et Jésus a dit que le prince des ténèbres, il arrive, il vient. Il n'a rien à moi. Jésus a dit ça. Il a dit, il n'a rien à moi. C'est-à-dire, entre eux, il n'y a rien. Lui, l'adversaire n'a rien avec lui. Donc, il pouvait se battre. Et ils sont battus jusqu'à la fin. Il a obtenu la victoire sur l'adversaire. Que Dieu soit béni. Donc, on va prier. On va prier ensemble. Et puis, si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, il peut venir. Là, je vais lui prier. Je vais prier pour lui. Pour que le Seigneur puisse l'aider. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Qu'on va prier. Moi, je m'occupe beaucoup plus des prières pour la libération des esprits. Parce que si ton esprit est libéré, le reste viendra seul. Amen. On peut expérimenter la guérison physique d'une maladie, mais si l'esprit n'est pas délivré, on est toujours ramené à la case de départ. Mais quand l'esprit est libéré, parce qu'il y a une onction, frère, dans l'imposition des mains, il y a une onction, il y a une puissance, oui, qu'on reçoit. Et ça agit. Ça agit dans la vie de celui qui vient par la foi. Toujours ça agit. Ça agit toujours, ça ne manque pas d'agir. Ça agit toujours. L'imposition des mains agit toujours, ça ne manque pas d'agir. Amen. Ça agit toujours. Ça fait un travail dans la vie de celui à qui on impose les mains. Et ça agit, ça travaille en fonction de la prière qui est faite. Et aussi en fonction de la foi qu'on manifeste pour saisir ce qu'on veut et que Dieu accorde. Amen. Nous allons prier. On va prier ensemble. Et puis, ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux, ils peuvent venir se lever, venir là devant. On va prier pour eux. Prions ensemble, le Seigneur.